RMC, entre les poteaux, Christophe Cessieux.
Salut à tous, ils avaient rallié l'Écosse plein d'espoir, rêvé d'une quatrième victoire consécutive, d'un jour de gloire à Murrayfield qui leur aurait ouvert les portes du Grand Chelem. Mais en l'espace de 80 minutes et de 50 points encaissés, le beau château écossais s'est écroulé sur la tête des Bleus. Comment expliquer cette déroute? Est-elle uniquement à mettre sur le compte du jour 100 ou le signe plus inquiétant d'une équipe fragile, incapable de se ressaisir dans la tempête? On va tenter de répondre à cette question et à bien d'autres aujourd'hui, car oui, après une telle défaite, la remise en question est obligatoire. Faut-il pour autant tout remettre en question et revoir nos ambitions à la baisse? Là aussi, on en débat dans un instant. Au-delà de ce podcast, un début de réponse sera peut-être apporté samedi prochain au Stade de France, où les Bleus, privés de Grand Chelem, peuvent encore espérer remporter le tournoi. Pour cela, il leur faudra battre l'Angleterre, une rose encore plus mal en point que notre coq de France. Pour évoquer le crash, puis le crunch, je vais appuyer sur quelques vétérans de la campagne d'Écosse, bien cabossés mais qui gardent espoir. Ce sont des optimistes invétérés. J'ai nommé Wilfried Templier et Denis Charvet. Salut les garçons.
Oui, oui.
Salut tout le monde.
Salut, on garde espoir.
Oui, j'espère bien.
Rien n'est perdu. Surtout.
Ah bah tout va bien. Je sais, pendant le match, tu pensais qu'au point de
bonne
histoire.
Sauf le grand thème.
Oui, le grand thème, lui, il est quand même passé à côté.
Yves Saint-André le dirait mieux que nous.
En revanche, l'optimisme, c'est pas vraiment son fort. Depuis son canapé, il a tout noté et va nous livrer son verdict impitoyable. Tremblez, bonne gens. Julien Landry est dans la place. Salut, Peyo.
Salut, messieurs. Pour le grand chelem, c'est foutu.
Oui, c'est exactement ça.
Là, tu l'as pas mal. Tu l'as bien travaillé quand même, ton goré.
Bravo.
Un ciel bleu azur dans lequel brille un soleil rare dans cette partie de l'Europe. De mémoire de suiveur, on n'avait jamais connu une telle météo à Édimbourg. De quoi remplir d'allégresse les 15 000 envahisseurs gaulois coiffés de leur inévitable béret qui rêvaient de triomphe. Mais le triomphe s'est transformé en cauchemar puis en déroute pour les Bleus.
C'est la quatrième marche à gravir. Les Bleus ne doivent pas trébucher à Murrayfield pour s'offrir 6 nations et pour rêver du grand chelem la semaine prochaine face à l'Angleterre. Écosse-France, c'est parti.
Essai de Darcy Graham.
Le premier essai écossais à la 5e minute.
Allez.
Oh, ballon récupéré avec Jalibert. La sautée, l'essai de Bielbiaré. Thomas Ramos qui arrive à donner à Bielbiaré le petit coup de pied rasant. En remise peut-être pour Antisouk, mais c'est sublime. C'est magnifique cet essai français. Le meilleur sauteur écossais, on sort tout de suite ce ballon. La combinaison magnifique pour Kalister qui est venu au milieu du terrain. Oh, elle était superbe, on y a vu que du feu. Et on part au ras, Schumann. Est-ce qu'il a marqué l'essai? L'essai de Pierre Schumann, le pilier gauche.
L'essai.
Il est parti au ras. Le quatrième essai écossais. Dupont qu'on n'a pas trop vu dans ce match aussi. Interception. La balle récupérée par Castel. Il va y aller à l'essai. Castel sur cette passe d'Antoine Dupont. Le coup de poignard. On prend la marée.
L'essai de Graham.
Carton jaune. Tati Sokbe pour Antoine Dupont qui va aller marquer. Est-ce qu'il va aller marquer? Oui, essai d'Antoine Dupont. Baptiste Serin continue dans le fermé. La bonne arrivée. Est-ce qu'il y a l'essai? L'essai de Thomas Ramos.
Allez, Jalibert qui emmène le premier.
Thomas Ramos qui va aller de son doublé. Thomas Ramos, son doublé en équipe de France.
On va mourir à 10 points, mais il y a eu 3 essais dans les 10 dernières minutes.
Défaite 50 à 40 de l'équipe de France qui s'est noyée ici à Édimbourg. L'énorme désillusion pour les hommes de Fabien Galthié qui ont abandonné le Grand Chelem cet après-midi à Murrayfield.
En écoutant ce résumé, on a l'impression que tu ne dis qu'un mot dans le match, Denis, c'est essai. Hein.
Ouais,
je veux dire qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Il y en a eu 13, je crois, en tout. Hein, 7 côté écossais, 6 côté français. 50 points dans la musette, donc, et 7 essais encaissés. Une défense gruyère, une discipline en berne. C'est simple, rien n'a fonctionné ce samedi à Murrayfield, où les Bleus ont vécu un véritable cauchemar. Wilfried, il faut remonter très loin hein, pour trouver trace d'une telle déroute, même si, comme le faisait remarquer Fabien Galthié en conférence de presse, les Bleus en ont quand même marqué 40, ok, je veux bien, mais 50 points dans les valises, ça c'est du jamais vu dans l'ère Galthié. Hein.
Oui, il a dit 40 j'ai dit 50 points encaissés, Fabien. Oui, 50-40. À un moment du match, on était sur les bases d'une défaite historique, hein, puisque les Bleus étaient menés de 33 points, 47-14, et que l'écart le plus grand de l'histoire entre les deux équipes en faveur de l'Écosse, c'est 28 points. 1912, on a failli battre un record vieux de 1912, 31-3 pour l'Écosse à l'époque. Je te dis pas, Denis, t'en souviens. En revanche, jamais l'équipe de Fabien Galthié n'avait encaissé 50 points et 7 essais. Hein. Jamais depuis qu'il est sélectionneur en 2020, c'était arrivé. Hein. Il y a eu le 43-17 l'été dernier en Nouvelle-Zélande pour les quarts au sport aussi. Moins 26 et le nombre de points encaissés, 6 essais aussi. Mais c'était pas la même équipe hein, où ils ont quand même fait tourner en Nouvelle-Zélande. Et puis après dans le tournoi, il y a eu le 38-17 à Marseille face aux Irlandais en 2024 après la Coupe du Monde. Mais on n'a jamais vécu ce qu'on a vécu samedi à Édimbourg.
Denis, dans la longue histoire du 15 de France, il y en a eu d'autres, des défaites, hein, mais elles étaient plus ou moins prévisibles. Quand tu sais que tu dois affronter la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde en 2015 à Cardiff, tu t'attends à prendre une valise et tu la prends effectivement. Mais là, cette déroute et surtout son empire était imprévisible. C'est ça qui nous surprend.
Tu as raison.
Personne n'imaginait ça.
Tu as raison de le dire. C'était imprévisible qu'à l'arrivée, pour nous, c'est un choc. C'est un choc parce que c'est une vraie claque, c'est une vraie désillusion. C'est ça brise le rêve d'un grand chelem, mais au-delà de ça, c'est...
Moi, je ne pouvais pas
m'imaginer que cette équipe de France-là, avec la qualité qu'elle a, qu'elle représente, pouvait nous sortir un match comme celui-là. Voilà. Pouvait faillir à ce point. C'est ça mon analyse. C'est-à-dire que à aucun moment je pourrais imaginer qu'on allait sombrer, parce qu'on a sombré. En fait, il n'est pas dupe, Fabien Galthié sait très bien que les 40 points de l'équipe de France, c'est anecdotique. Il le sait très bien. Il est assez grand pour le savoir. Il fait de la com et il fait ce qu'il peut, parce que quand tu as pris une branlée comme ça, eh ben, tu réponds ce que tu peux. C'est ce qu'il a fait, mais en interne, je peux te dire, ça a déjà gueulé. Je suis au courant. Donc, il est quand même très en colère. Donc il est comme nous quoi, il est choqué aussi parce qu'il s'attendait pas à une telle débâcle. Et c'est vrai que dans l'histoire du 15 de France, j'ai pas souvenir en Écosse d'avoir vécu une telle humiliation. On a perdu des combats, mais pas avec autant d'essais. En se faisant transpercer comme on s'est fait transpercer, en étant sans sursaut d'orgueil, parce que c'est ça qui est
rébellion.
Sans rébellion. Ouais. Et ça c'est inquiétant. Le reste, bon, c'est très bien que
sans rébellion. C'est le dernier quart d'heure. Les gens jugeront comme ils veulent. Hein, si l'Écosse a desserré les trains. Certainement, parce que leur met 26-3 dans le dernier quart d'heure, mais il y a une part de relâchement écossais. Mais oui, à un moment, Denis, quand on parle de la deuxième mi-temps ou des deux premiers tiers de deuxième mi-temps, il y a ça comme des perles les essais.
Non, mais
en fait,
c'est incroyable.
Sans réaction.
Moi, j'avais envie de me pincer pendant le match. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas la réalité. On voit pas. On est dans un cauchemar. Comment c'était devant ta télé, Julien? Est-ce que tu as eu le même sentiment toi aussi? Tu t'es dit, je vais me réveiller, le cauchemar va s'arrêter, non?
Alors, je faisais les notes avec Pierre, mais je sais pas. Pendant ce match, j'ai très vite senti que ça partait de manière catastrophique.
Exactement. Les premières minutes, alors, Julien, ça donne le ton. Il y a pas mal de choses qui donnent le ton, en fait.
Je trouve que ce 14-7, il est illusoire presque,
oui,
parce que je me dis, on n'a pas. En fait, je faisais les notes avec Pierre, donc au communiqué, je lui dis, je sais pas comment noter les avant-français parce qu'on n'a jamais le ballon. On n'avait jamais le ballon. On passait notre temps à défendre. On rendait les munitions. On était incapable de faire des contre-rucks. On n'allait jamais dans les rucks. On se faisait dépasser. Dès que les Écossais attaquaient, on se faisait transpercer. Et pendant ces 40 premières minutes, je me suis dit, waouh, c'est un miracle qu'à la mi-temps, on soit si encore dans les clous de me dire, je me suis dit, Galthié, il va remettre tout dans l'ordre à la mi-temps et il va pouvoir même revenir. Je me suis même demandé s'il fallait pas coacher dès la 30e parce que je trouvais que tout partait mal. Alors on reparlera de la stratégie à un moment, parce qu'on a tous été d'accord finalement sur cette stratégie de faire courir. Mais est-ce que s'adapter à l'adversaire, c'est pas un signe de faiblesse aussi? Mais on en reparlera. Mais voilà, moi d'entrée, j'ai senti que dans cet après-midi, ça partait pas vraiment comme il fallait. Et ben après la deuxième mi-temps, et tout part de travers. Mais voilà, moi d'entrée, j'ai senti que les Français y étaient pas et qu'on était déjà dépassés par l'instant style des Écossais.
Juste dans les cinq premières minutes, je te disais, il y a cinq jeux au pied. Il y a trois jeux au pied, pardon, des Écossais. Il y a Bielbiaré qui le dégueule entre guillemets. Il y a en avant d'Ati Sogbé et en avant de Ramos. Les trois premiers jeux au pied. On s'est dit, vous vous souvenez qu'on s'est dit, on est mieux dans le jeu aérien sur les derniers matchs, même si ça avait un peu baissé le pourcentage de réussite. Mais nos zones de progrès, dès le début de match, ça a donné le ton.
Ouais, malgré
les
tout,
les trois
c'est
premières mêlées étaient pénalisées. T'es pénalisé sur les trois premières mêlées.
Ouais,
j'ai envie quand même de parler quand même du ressenti par rapport aux joueurs. Je trouvais qu'il y avait d'un côté une énergie, une envie folle des Écossais de faire du jeu, avec une envie, une détermination qu'on n'a jamais eu en fait. Parce que le dernier quart d'heure, on va arrêter d'en parler, c'était de la baballe. Mais quand il a fallu aller au contact, dans les affrontements et tout, mais on n'y était pas. On a explosé. C'est là où c'est inquiétant. C'est plus inquiétant là qu'ailleurs.
Et pourtant,
en bout de
quelques
minutes.
C'est ce qui me dérange, juste. Ouais, vas-y. Juste ce qui me dérange, moi, j'ai l'impression que ce match, on a... non mais j'en avais parlé à Wilfried et j'avais parlé à Wilfried et Pierre juste après match. Il m'est revenu la citation d'Antoine Dupont de veille de match, et moi ce jour-là, il m'avait surpris déjà, où il dit le ce serait le premier match en Écosse, vous ne direz pas que ça serait le plus dur. Moi, je trouvais que cette phrase, elle était folle, ouais, parce que je trouvais que les Français, en gros, faisaient genre, ouais, vous dites ça parce que là, évidemment, c'est le quatrième match, mais il faut peut-être pas les prendre, il faut peut-être pas les croire si forts qu'ils sont, les Écossais. Et je trouve que cette phrase-là, elle était lourde de sens à mes yeux, en tout cas, genre, il avait pas préparé comme un vrai combat dont Denis a parlé, dans l'intensité, on n'y était pas, dans les zones de règle, on n'y était pas, et je trouve qu'ils l'ont peut-être préparé à la légère, ce que dit d'ailleurs un peu François
Cross. On va écouter ça dans quelques instants. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ce début catastrophique, c'est sa première minute, premier essai encaissé, et puis il y a la réaction des Français quand même, malgré tout, qui nous permet de prendre l'avantage, de prendre le score. On mène 14-7, et là on se dit, franchement, moi je me dis, bon ça va, on va leur rouler dessus, même si évidemment les premières minutes ont quand même été inquiétantes. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand on mène 14-7?
Julien l'a très bien dit, c'est contre le cours du jeu presque. C'est-à-dire qu'on n'a pas un ballon.
Mais malgré tout. Ouais, mais du coup, Denis, avec ce qu'on a montré en début de tournoi, t'as raison, Christophe, on se dit à ce moment-là.
Oui, on peut se dire que c'est parti, d'accord,
mais ils sont solides.
Mais Julien, a très bien résumé. C'est vrai qu'on n'a pas un ballon, on est pris dans les rucks, on est pris dans les intentions. Donc c'est, oui, et après, tout d'un coup, ben, ça redevient, la réalité nous rattrape, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le combat. On est... bon, moi, je pense que c'est le combat.
Mais Denis, tu joues pour un grand chelem. C'est l'avant-dernier. Comment tu peux ne pas avoir d'envie?
Non, mais là, on analyse, c'est tout analysé. La vraie explication, c'est qu'on n'était pas dans le combat. On n'était pas dans la, on n'était pas agressif, ouais. on n'était pas comme des tueurs, quoi. C'est-à-dire comme on aurait dû l'être pour essayer d'aller chercher ce grand chelem. Et c'est vrai qu'on a subi tout le match. Ouais. Enfin, c'est assez incroyable à ce niveau-là. Quand tu connais la qualité des joueurs qui composent cette équipe de France.
Et sur le terrain, le constat, vous allez l'entendre dans la voix de Thomas Ramos, il est simple. On marque deux essais, et puis, d'un seul coup, il n'y a plus de son, plus d'image.
Je trouve qu'on a en première mi-temps trop laissé le ballon à cette équipe, trop subi. En 30 ans de deuxième période, on a aussi un peu trop subi. Subi dans le sens, subi forcément l'attaque de cette équipe, mais aussi sur le terrain un peu pas tôt. Donc voilà, c'est dommage. Il y a 15-20 bonnes minutes peut-être à la fin où on s'est peut-être un peu plus retrouvé dans notre rugby. Mais voilà, sur la première mi-temps, on a deux actions, on marque deux essais, derrière on fait plus rien.
Voilà, on... subi, c'est le mot. Voilà, il a très bien résumé. Il a ressenti plus fort que nous. Hein. Donc tu subis tout. Tout, tu es pris dans tous les compartiments du jeu. C'est-à-dire que ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas eu la rébellion comme dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les leaders doivent se réunir, se dire bon, maintenant, comment on fait pour s'en sortir.
Alors, avant d'expliquer, de voir quelles sont les raisons de l'échec, on va quand même être mathématique et nous donner les chiffres et les stats qui sont impitoyables pour la bande à Galtier. Wilfried, bien loin des standards du 15 de France de ces dernières années. Hein.
Ouais, alors il y a eu le chiffre de la possession de balle, Julien en a parlé, c'est 60-40 sur le match, mais souvenez-vous qu'à la mi-temps, c'était quasiment du 70-30, qu'on n'avait pas vu le ballon en 30% de possession de balle. C'est plus difficile avec maintenant les nouvelles règles et vous savez qu'on favorise l'attaque et si on n'a plus le ballon, la dépossession ne fait plus gagner. En attaque, on a fait énormément moins de différence. En moyenne, les Français battaient quand même, sur les trois premiers matchs du tournoi, 37 défenseurs adverses dans leur match, et là, c'est descendu à 18. Et du coup, c'est en face, c'est les Écossais qu'on battu 33 défenseurs français. Ils sont à 85% de plaquage réussi, mais ce qui est encore correct. Mais tous les standards, tu l'as dit, sont inversés. La stat choquante, sinon, ce sont les 125 rucks écossais au sein duquel ils n'ont perdu aucun ballon. Jamais on a pu envoyer leur attaque. Jamais on a mis les mains dedans. Jamais on a En fait, ça a déroulé en fait. Est-ce qu'ils sont déjà très forts en conservation? Mais alors, voilà. Mais 125 rucks.
Des Moefana, des Cross, c'est impossible que t'aies pas gratté un ballon sur.
Il y a une explication, c'est que ça allait trop vite, peut-être Julien. Parce
qu'on n'était pas assez dans l'engagement physique.
Alors on n'était pas assez dans l'engagement.
On n'était pas dans l'engagement. 125 rucks, c'est impensable que pas une fois Marchand, dont c'est la spécialité, soit arriver sur une aide au plaquage pour mettre les mains, rien que pour ralentir le rack. C'est impensable de pas arriver à gratter.
Ou ça peut arriver à Meafou aussi à un moment.
Oui, c'est ça.
Deuxième mi-temps.
Oui, c'est ça. Ou même Moefana. Mais on en a plein des gratteurs de haut niveau dans ce niveau-là.
Dans un match de très haut niveau, c'est rarissime, on est d'accord.
Ah bah j'imagine, oui.
Zéro contre Ruck, je sais pas, ça n'a pas existé.
Et pour finir, sur la discipline, on a pris 10 pénalités. Bon, c'est normalement, faut être en dessous de 10, mais on avait fait 4 contre l'Irlande, 6 contre le Pays de Galles, 7 contre l'Italie. Ouais. Et il y a eu 2 cartons jaunes. Il n'y avait jamais eu de carton jaune dans ce tournoi contre l'équipe de France.
Et même dans les domaines où on pensait être supérieur aux Écossais, notamment en touche, on disait qu'on allait les bouffer en touche. Bah, on s'est fait piquer un ballon, on n'en aura pas piqué un, je crois. En mêlée, on s'est fait bouger, on va y revenir dans un instant. Bref, il n'y a rien qui n'a fonctionné. C'est quand même rarissime que rien ne fonctionne à ce point-là dans une équipe et dans un match. Parmi les naufragés de Murrayfield, évidemment, le patron en personne, Antoine Dupont, complètement à côté de ses crampons, qui réalise là sa plus mauvaise prestation en bleu depuis ses débuts. Là aussi, incompréhensible. Est-ce que vous avez des explications? On a évoqué une petite maladie en début de semaine, d'autres évoquent des soucis plus personnels. Quand Dupont se rate, les fantasmes, c'est vrai que les plus fous se font jour. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous expliquez?
Non, mais ce qui est incroyable, c'est que on le voit jamais comme ça.
Ah ben non, c'est la première fois.
C'est ça qui nous surprend, qui nous choque.
En retard sur certains
rocks. Qui nous choque même, parce que. Mais tu sens qu'il y a un problème physique. C'est-à-dire que lui, il est toujours à 100%, 120%, et que là, sur ce match-là, je crois qu'il était fatigué. Il ne l'a pas reconnu, mais c'est pas possible autrement que moi, je suis sûr qu'il était diminué, qu'il a joué comme il a pu, et au final, il a failli, comme tous les autres.
Qu'est-ce qu'on en dit?
Il y a une scène de Dupont, moi, qui m'a marqué pendant le match. Alors, devant la télé, il y a une chandelle des Écossais, et les Français se replacent, et Dupont se replace en marchant. Ce qui n'arrive jamais. Il n'arrive jamais en marchant. Il se replace tranquillement.
Et d'ailleurs, il était grincheux même sur le match.
Les Français font en avant, et c'est des ballons que Dupont aurait récupéré parfois, et il n'était pas là.
Ça m'a permis d'avoir du mal à se relever, marcher vers la suite du ruck. Lui et son long jeu au pied, il l'a eu parfois pendant le match, mais début de deuxième mi-temps, il fait un tout petit dégagement et on prend l'essai de White ensuite dans la foulée, qui nous met 26-14 et c'est le début de la fin en deuxième mi-temps. Et c'est hyper rare. Moi, j'ai jamais vu comme ça.
Oui, il se fait intercepter. Tu le vois se faire intercepter aussi facilement d'ailleurs. Il est emprunté, il porte le ballon, il se fait coffrer, tu vois. Donc. Oui, il n'était pas bien.
N'oublions pas. On a tendance à oublier, et ça nous fera permettre de saluer Roland Courbis, avec qui j'en discutais souvent. Roland avait souvent l'habitude de me dire que quand tu reviens d'une blessure au genou, tu reviens en pleine bourre et que t'as un petit contre-coup. N'oublions pas que c'est Dupont, possible. Il revient du genou alors qu'il a fait des matchs exceptionnels depuis son retour et qu'il nous a peut-être habitués à trop et que là, peut-être, c'est tout simplement le contre-coup de sa blessure au genou.
C'est un contre-coup physique, qui arrive d'un coup quand même.
Roland le disait.
Il y a 15 jours, il y a 3 semaines,
il était au sommet face à
contre l'Italie. Il a été extraordinaire contre l'Australie.
Est-ce que la coupure lui a pas fait du mal? Est-ce que la coupure d'une semaine lui a pas fait du mal? Roland disait souvent que c'était les joueurs qui revenaient d'un genou avaient tendance à être très très forts d'entrée et qu'ils avaient un petit coup de mou et qu'il fallait attendre 3-4 mois avant qu'ils retrouvent de la régularité. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi pour Antoine Dupont d'expliquer
c'est possible.
N'oublions pas qu'il nous a habitués au top et qu'il revient quand même d'une deuxième blessure à son genou en à peine 7 mois.
Non mais alors le problème d'Antoine c'est qu'il a besoin d'être à ça 1000% pour faire le jeu qu'il fait. C'est-à-dire que dès qu'il
rappelez-vous du match contre l'Afrique du Sud, il
était moins bon, bien sûr. On l'aurait eu à 100%, on n'aurait jamais perdu. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui demande son physique doit être présent. Et là, on sent qu'il est emprunté, qu'il avait un gros coup de mou.
Nous, on l'a ressenti depuis les tribunes, les gens devant leur télé également. Ce qui est étonnant, c'est que le sélectionneur ne l'ait pas ressenti, lui, que Dupont n'était pas dans son assiette.
Il a dû le
coach à quel minute hyper tard
dans
le match.
71e.
71e.
C'est dingue quand même que Galtier ne s'aperçoive pas que Dupont n'y est pas et que Serein.
Non, 68e. Mais 68. C'est pareil.
C'est-à-dire qu'il doit le changer. Pourquoi? Parce que d'abord, tu es submergé, donc il n'y a plus rien à gagner. Donc ça ne coûte rien de changer les joueurs. Au contraire, tu fais rentrer les joueurs frais. Donc j'aurais coaché 10 minutes avant.
Ça a toujours été comme ça, Denis. Il a toujours eu du mal à sortir Antoine, Fabien Galtier.
C'est bien pour ça qu'il l'avait perdu face à la Namibie, je crois, quand il se blesse en Coupe du Monde. C'est ça, non?
Bah, il a fait jouer.
Alors qu'il a joué titulaire parce qu'il rate le match contre l'Uruguay. Galtier refont jouer les titulaires et Antoine se blesse très tôt. Mm-hmm. Non, mais le coaching, c'est un vrai problème dans cette équipe de France. Il faudra qu'on en reparle quand même un jour. Il y a un vrai souci de coaching depuis le début du tournoi. Les trois premières mêlées pénalisées, j'en reviens toujours à Fabien Galtier qui veut toujours pas nous parler d'Erasmus, de le comparer. Erasmus, il se fait sanctionner les trois premières mêlées, il coach ses piliers. Quand tu te rends compte que si tu roules sur les Irlandais physiquement, mais tu fais rentrer mais à foutre très tôt. Voilà, moi je pense qu'il y a un vrai problème de coaching avec ces idées là de il faut coacher à la 45e, à la 50e. Les matchs aussi parfois, ils doivent te faire changer le sens du coaching. Ouais. Et là Antoine Dupont,
Erasmus,
d'accord.
Qui oui, fait non, sortir ce mec hyper tôt des fois, son capitaine Colissi.
Quand et... il fait rentrer quand il fait sortir Colissi à la mi-temps contre les Français, minutes, ouais. Exact. Non, à la mi-temps, ouais, il fait sortir Colissi contre nous. Moi je pense qu'au bout d'un moment, tu peux avoir des plans de coaching, c'est logique. Ce que nous avait dit Guillard, il m'avait dit j'ai 50 minutes à fond. Très bien. Sauf que parfois, des scénarios de match te font changer le coaching. Tes deux piliers, ils sont sanctionnés sur les trois premières mêlées. Eh ben, t'envoies un signal à l'arbitre, tu changes tes piliers. Antoine Dupont, il est pas au top de sa forme. À l'heure de jeu, tu te dis peut-être, eh ben, Antoine, désolé aujourd'hui, tu y es pas. Et dans le bien du 15 de France, je te change. Il faut arrêter avec ces coachings programmés, là, à la 40e, 42e, 50e.
Moefana qui loupe 7 plaquages.
Mais oui, exactement. Moefana à la mi-temps.
Tu peux le sortir à la 50e aussi.
Oui. Ouais, mais deux porteurs avaient l'épaule.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est compliqué. Non, mais c'est justement, mais dans ces cas-là, mais je trouve que voilà, le coaching, il est trop programmé. En fait, le coaching, il influence jamais le match avec Fabien Galthié.
Ouais. Et c'est 46e, Colisi, pour être précis.
Ah, tu vois, j'avais dit 45.
Ah, je croyais que c'était à la mi-temps.
Je suis bon, hein, quand même.
Contre les Français, il sort pas à la mi-temps. Il dit pas dans le vestiaire à la mi-temps. D'accord,
ouais, 46e. À la mi-temps. Mais je crois que non, c'est après, c'est en finale. C'est pas en finale qu'il le sort après.
Si, en finale, il sort plus, il le sort aussi.
Après tôt. Je vais vous le dire aussi. Parce que si vous me demandez, je vais vous le dire, monsieur.
Bien sûr, s'il vous plaît.
Non, c'est plus tard. Colissi. Non, 74e. Mais j'ai un souvenir, oui, à un moment où il est.
Pour le quart de finale. La tournée de novembre. Non, mais j'ai un souvenir.
C'est quand ils sont venus.
Les Sudaf prennent un rouge.
Ah non, mais à novembre, Erasmus, il sort en cas.
Il le sort parce qu'il est au bord, Colissi, il encourage ses mecs au bord. Ouais, voilà.
C'est ça.
Alors, on a parlé du cas Dupont. Il n'a pas été le seul, évidemment, à passer complètement à côté de son match. On peut étudier ligne par ligne. Franchement, c'est une catastrophe. La première ligne chahutée, Aldeguerri qui montre une nouvelle fois ses limites. Est-ce qu'il a encore un avenir dans le 15 de France ? J'ai trouvé que les notes, finalement, données par tous nos confrères, mis à part celles de Julien et de Pierre qui, eux,
ah oui, on paye.
Voilà, terrible.
Ils envoient.
Mais autrement, chez nos confrères.
Mais t'as pris 50 points. Comment tu peux mettre 5 à des joueurs quand tu prends 50 pions?
Oui, ça, je.
Non, mais au bout d'un moment. Mais même moi, j'ai dit à Pierre, quand je lui ai dit, on a été sévère ou pas? Mais t'as pris 50 pions quand même. Et Aldeguerri, il est pénalisé
5,
sur 3 mêlées.
Ben non, oui, mais du 5,
beaucoup,
on en a mis.
Pas beaucoup.
Ouais, vous en avez mis quand même. Ouais, Ramos, non?
Parce que Pierre, il a un peu remonté, mais il a un peu remonté.
Non, j'en ai
déjà remonté. Il a bien remonté.
Non, mais Aldeguerri, après.
T'aurais mis 0,5, on te connaît, Julien. Terrible.
Non, pas zéro, mais au bout d'un moment. Après, c'est aussi honnêteté. Tu mets 8 à un joueur qui fait un très bon match, t'as le droit de lui mettre 3 quand il est pas bon. Voilà, je suis désolé. Moefana, il mérite pas mieux que 2. Quand t'es le patron de la défense, que tu rates 8 plaquages sur 15, je vois pas comment tu peux mettre 4 à Moefana. Ouais. Je suis désolé. C'est
Antoine Dupont, il a pris 3, le pauvre. Dans sa carrière, il a jamais pris 3.
Ouais, voilà. C'est la première fois. Il est humain. Ouais. Il n'est pas toujours super Dupont.
Je pense que la moindre bonne note, c'est être 6.
Alors, Aldeguerri, Moefana, Dupont, quels sont les autres qui sont vraiment à la rue sur ce match?
La troisième ligne, pour moi, elle n'a pas été rayonnante comme elle l'est. Alors que la troisième ligne écossaise a été époustouflante.
La deuxième ligne au Livron.
Non, on a souffert devant. On n'était pas. Oui, on n'était pas dans le combat. On n'était pas dans le.
Fantôme. Hein.
On a pas. On a sur. On s'est noyé. Noyé. Je sais pas. Là, j'ai pas beaucoup d'explications. Hein, mais à ce point, c'est terrible. On n'a pas vu des avants français. Même Guillard, qui habituellement transperce les défenses, jamais tu l'as vu dominer son adversaire. Gagner les duels, c'est tout le monde a failli, quoi.
Et ton copain et ton petit tout, Mathieu Jalibert, comment
Ouais, il s'en sort, mais ouais, il s'en sort. Bah, à la fin, oui, mais il est pas transcendant non plus. Il faut pas non plus exagérer. Il s'en sort.
Ouais. Ah, dans ce désastre collectif, donc très peu de joueurs s'en sortent avec les encouragements du jury. Est-ce que vous avez là aussi quelques noms en tête des garçons qui ont réussi à sauver ce qui pouvait encore l'être sur ce match?
Jean-Baptiste Gros termine avec 22 plaquages. Pour ouais.
22. Il était déjà 20 sur 20 depuis le début du tournoi, ouais, hein, à 100%. Hein. Les seuls joueurs avec le talonneur George Turner, talonneur écossais. Mais j'ai l'image où il vient chercher un plaquage sur Youth Jones, là, devant nous, ouais, là, où il sprint. Jean-Baptiste Gros, 22 sur 22. Je sais pas si on se rend compte pour un pilier gauche quand même.
Kingor aussi en main. Il vient rattraper Kingor aussi en main.
Ouais, ou c'est Kingor. Ouais. C'est la prestation d'un pilier gauche pour plaquer comme ça. Hein, c'est incroyable. Hein.
Pour moi, le meilleur français avant son décart, c'est Oscar Jégou. Mais le problème, j'ai peur qu'on le revoie pas
parce qu'il fait 24 plaquages aussi.
Oui, 24 plaquages. Il est sur le deuxième essai au relais d'Antoine Dupont. Je le trouve toujours exceptionnel. Il marque. Je le trouve toujours exceptionnel dans ses capacités de soutien, dans l'énergie qu'il peut dépenser. Malheureusement, j'ai peur que...
On va en parler.
Très cher en commission de discipline.
On va en parler. Alors, on va maintenant essayer d'expliquer les raisons du naufrage. Un naufrage dû en grande partie, évidemment, par la prestation des Écossais qui ont livré sans doute l'une des les plus belles prestations de leur longue histoire. Certains les surnomment les All Blacks de l'Europe. Certains ont vraiment mérité ce surnom samedi. Thomas Ramos reconnaissait humblement la domination écossaise. On l'écoute.
Oui, c'est sûr qu'on est tombé sur une très belle équipe, ouais, très athlétique, qui nous a dominé presque tout le match. Donc nous, un peu plus d'indiscipline à chaud, j'ai l'impression que sur les autres matchs, on a laissé énormément la possession à cette équipe du coup. Quand on est face à l'équipe d'Écosse, qu'on les laisse jouer, qu'ils ont le momentum, forcément on subit, et c'est ce qui s'est passé un petit peu aujourd'hui. C'est dommage, heureusement qu'on repart avec un point comptablement, parce que ça nous permet de rester en haut du tableau avec eux. S'il y a un point positif aujourd'hui à retirer, c'est peut-être celui-ci. Donc...
On y reviendra tout à l'heure. Alors, des Scottish en état de grâce, tout leur a réussi dans ce match. Ça arrive rarement, Denis, toi qui as connu évidemment des grands moments sur les terrains de rugby, ça arrive rarement dans une carrière d'être touché par la grâce à ce point-là. Hein.
Tu veux dire le collectif ou
ouais, le collectif dans son ensemble. Tout a fonctionné, je veux dire.
Oui, mais c'est pas. En même temps, on n'est pas surpris parce que cette équipe
d'Écosse, à ce niveau-là quand même.
Oui, autant d'être dominé. Oui, autant
je pense que s'ils avaient eu les box face à eux, ils auraient gagné samedi.
Mais ils se seraient fait concasser devant, Christophe.
Ah, peut-être.
L'Écosse a mis 30 points aux Anglais. Alors, ils ont perdu en Italie.
Il y a peu d'équipes qui seraient venues gagner. Hein, mais Edimbourg, quand même. Hein,
mais l'Écosse, si on refait un petit peu le tournoi, ils ont perdu en Italie. Et l'Italie, on s'aperçoit que c'est une très bonne équipe.
Oui,
et
puis pour ceux qui ont vu le match, Denis.
Oui, il pleuvait.
La majorité du ballon. Ils sont pas loin de gagner à la fin. Voilà, ils se font piéger, ils sont pas largués en Italie. Hein.
Et ils seraient, s'ils n'avaient pas perdu ce match, ils seraient en position d'aller chercher le grand chelem
en Irlande. Ouais. Je pense qu'ils vont faire un gros coup en Irlande, mais après, oui, à ce point, être touché par la grâce, tu as raison, c'était le visuel des tribunes, c'était choquant même. Tu te dis, mais cette équipe, elle ressemble à quoi, aux Blacks? C'est des blacks en grande forme, quoi. C'est-à-dire que, où tout d'un coup, t'as la marée noire qui te submerge. Là, c'était la marée bleu marine. Mais c'était impressionnant, oui, c'est impressionnant. J'ai rarement vu une telle domination pendant 60 minutes.
C'est simple,
moi,
Julien, mais c'est.
Je ne les ai pas trouvés touchés par la grâce. Je les ai trouvés très bons parce qu'ils ont très bien travaillé le match. Le match, il est très bien préparé, tout simplement. Fabien Galthié nous a longtemps dit on est ceux qui travaillent le plus des staffs. Je suis désolé, les Écossais, ils ont travaillé une stratégie très bien établie. Alors effectivement, tu l'as dit Christophe, les lancements, ils sont réussis. Mais l'essai sur la combinaison en touche, c'est pas touché par la grâce. Hein. C'est un travail, ils ont lu la défense française, ils savaient où aller les attraper. Tuer Pouloutou, ces attaques en verticale avec des joueurs dans le dos. Ils savaient que Mathieu Jalibert sur l'extérieur, il était coincé avec Moefana et De Porter. C'est tout simplement du travail. Et on en a parlé lundi dernier. La ligne de trois quarts des Écossais, elle est peut-être aussi brillante que la ligne des trois quarts des Français. Tuer Pouloutou John, c'est peut-être la meilleure paire de centre au monde depuis 5 ans. Darcy Graham, il est très bon. King Horn, il est très bon. Au bout d'un moment, c'est des joueurs talentueux.
T'as pas parlé de Finn Russell, mais Finn Russell, il est fait gagner au Pays de Galles.
Il a même pas fait un match comme on aurait pu attendre, tu vois, stratosphérique.
Il a été sobre.
Il a été sobre. Oh, moi, je trouve qu'ils ont.
Non mais il a été bon quand même.
Oui, il a été bon.
Ah non, mais je dis pas qu'il a pas été bon. Amène dans son jeu.
Je dis qu'il a pas fait parfois du Russell où il a pu faire des coups de génie comme il peut parfois le faire. Il a été très sobre.
Jordan, ouais.
Il a manœuvré ça parfaitement. Moi, je trouve que les Écossais ont été très bons.
Il fait plus de fèves comme on le répète. Ça fait un moment qu'il c'est un vrai crack et sur les passes décisives, sur l'orientation du jeu. C'est lui qui fait beaucoup de choses, quoi. Le Darcy Graham, il a le record d'essais, pour l'Écosse. 37 essais. Ouais. Vous avez vu ce lutin que c'est? Ouais, j'adore magnifique. Ce style de joueur, là, comme ça, là.
Il ressemble un peu à Colby, un peu dans le style.
Et tout le temps, t'as un mec dessus, hop, il passe quand même, il arrive à passer.
Il marque ses
sur-essais. Ouais.
Non, mais quand tu vois que Van der Meer, il n'est pas là.
Il n'est pas convié, ouais.
C'est incroyable. Ouais. C'était le meilleur ailier au monde il y a deux ans.
Deux ans, ouais.
Tu te rends compte, c'est...
Bon, alors, pas touché par la grâce, mais quand même très efficace et bien travaillé. Donc, cette équipe d'Écosse qui peut encore remporter le tournoi. Parmi les autres raisons du désastre français, certains évoquent une erreur de casting et une erreur de stratégie. Julien Galthié avait opéré des choix forts, notamment en deuxième ligne et au centre, des choix risqués, étonnants parfois, qui se sont avérés vraiment catastrophiques. Hein.
Alors après, c'est toujours facile après match. Avant match, tout le monde s'était dit que devant le volume de course des Écossais, il était préférable d'y mettre Olivon et Guillard, qui avaient plus de capacité à les fameuses courses à haute intensité, et que c'était peut-être mieux de mettre cette équipe-là, de faire confiance à Moefana et De Porter, qui avaient été très bons contre les Irlandais. Les choix de Galtier, honnêtement, quand il a annoncé la compo, personne s'est dit ce qui est bizarre. La seule chose où on aurait pu reprocher à Galtier, c'est de s'adapter encore une fois à l'adversaire plutôt qu'imposer son jeu. Je pense que ce qu'ont fait les Gallois d'ailleurs, c'est de faire très mal dans l'axe aux Écossais. On a été bon quand on a fait mal aux Écossais dans l'axe. Voilà, on a voulu s'adapter à eux, mais avec des joueurs qui avaient fait un tournoi pour le coup depuis le début très bon. Olivon et Guillard, ils sont monstrueux. Moefana et De Porter, tu peux rien leur reprocher. Ce jour-là, malheureusement, c'est sûr qu'après, on se dit, ben, on aurait peut-être été meilleur avec Meafou. Broboiré, qui a pas raté un plaquage depuis qu'il est titulaire, aurait peut-être été mieux que Moefana. Voilà, ils ont fait des choix. Est-ce que la blessure de Broboiré a aussi entraîné la titularisation de Moefana? On n'est jamais au courant de tout. Les choix de Galtier avant match, on n'avait rien de trouvé scandaleux, mais c'est sûr qu'après la rencontre, c'est facile de dire qu'il s'est trompé. Moi, tu vois, je lui tomberai pas dessus.
Ah, bah, c'est bien.
Et pourtant, Dieu sait que.
Tout change.
Non, mais après coup, c'est toujours facile, oui.
Exactement.
Est-ce que, malgré tout, c'était pas une erreur de vouloir jouer le jeu des Écossais plutôt, comme le disait.
Alors là, ce que je reproche à Galtier, c'est le coaching. C'est le coaching qui doit arriver plus tôt. Quand tu vois que tu t'es trompé dans ta compo.
Quand tu t'es trompé.
T'as 8 joueurs sur le banc, tu peux t'adapter. Voilà. C'est là où je reproche à Galtier, c'est de pas avoir.
Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi, Julien. C'est pas le coaching, c'est le changement de stratégie. Ça va au-delà du coaching. C'est-à-dire que, alors évidemment, c'est lié aussi au coaching pour faire rentrer des poids lourds comme Meafou. Mais quand tu vois que tu peux plus, même sur l'extérieur, que tu es pris partout, change de tactique.
C'est sûr. Le tactique, mais
la tactique, à la mi-temps, déjà, tu es submergé pendant 40 minutes. Tu dois te dire à la mi-temps, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas changé de tactique après la mi-temps. On n'a pas.
Après, là où c'est facile, tu vois, est-ce que Meafou, il n'aurait pas explosé d'entrée de match? C'est toujours pareil.
Mais c'est vrai qu'il aurait pu avoir le seul reproche que tu peux faire à Fabien, c'est change de tactique quand tu vois que t'es noyé, que tu n'arrives pas à faire à contrecarrer les assauts des Écossais. Bah, c'est facile à dire, mais il n'y a pas eu sursaut d'orgueil.
Les box ne changent pas trop de tactique quand ils jouent.
Ils sont pas submergés.
Ils changent de charnière.
Enfin, sur les fondamentaux, ils vont pas jouer comme les Écossais. Donc,
mais quand tu mets jouer Pollard plutôt que Liboc avec 10, tu mets pas la même volonté de jeu derrière.
Ça reste des grandes chandelles et on casse la gueule devant. Donc nous, on a voulu s'adapter à l'Italie, ça a bien marché. Mais là, comme vous dites, c'est facile après. Mais on a oublié de leur casser la gueule entre guillemets.
Est-ce qu'en leur cassant la gueule, on les aurait battus? Est-ce que tu parlais tout à l'heure, Julien, des Sudaves qui auraient gagné contre les Écossais? Moi, je suis pas convaincu.
On va entendre François Cross, je crois. C'est intéressant ce qu'il dit. Non, on l'a pas eu, François Cross.
Sur quoi? Sur la préparation?
Oui,
on va l'écouter dans un instant.
Parce que je pense qu'il
a bien lu le conducteur.
Oui, j'ai bien lu, parce que je suis d'accord avec lui.
Écoutons-le.
Malheureusement, c'est terminé pour le Grand Chelem, même si le tournoi n'est pas terminé. On a quand même quelque chose de beau à faire la semaine prochaine. Mais peut-être que justement, la préparation et dans l'approche de ce match, peut-être un peu trompé sur l'intensité qu'on a mis ce soir. On a été pris dans l'engagement. Et à ce niveau-là, et quand des équipes comme ça, qu'on est dominé sur l'engagement, c'est compliqué après de répondre présent.
Voilà, on s'est trompé dans la préparation de ce match.
Ce qui veut dire, c'est que en fait, il y a peut-être un peu de légèreté, de
suffisance.
Non, j'irai pas jusqu'à suffisance.
C'est-à-dire la fameuse.
Ils jouaient déjà contre les Anglais, jouaient le Grand Chelem.
On est les premiers à se mettre dans cette position-là. Hein. Rappelez-vous dans le SMS la veille du match, Vincent qui nous dit on va leur marcher dessus, on va être champion du monde, on va écraser tout le monde. On est tous là-dedans.
C'est humain.
En
même temps, avec les joueurs aussi, c'est humain. Tu fais un très bon tournoi, tu te dis en Écosse, quoi qu'il arrive, si on fait le match le minimum garanti, ça passera. En fait, c'est ça que tu te dis. Et en fait, on ne fait pas la guerre. Et pour gagner, pour essayer de résister à ces Écossais, il fallait faire la guerre. On ne l'a pas fait.
Est-ce que c'est pas notre faute aussi en leur disant, vous allez voir, l'Écosse, ça va être facile, vous êtes en lice vers le Grand Chelem. Est-ce qu'en leur posant des questions comme ça,
peut-être,
à Marc aussi, Wilfried, finalement, on leur met pas aussi de fausses idées dans la tête?
Ces questions-là.
Oui, je sais que t'es obligé. Mais est-ce que.
Quand c'est notre faute?
Non, mais je sais pas.
C'est notre faute, ils ont perdu.
Il paraît qu'on espionne les entraînements, selon Fabien Galtier, on espionne les entraînements.
Ce que dit François Cross, c'est que même lui, a ressenti. Donc ça veut dire que c'est tout le groupe qui a ressenti cette préparation
tronquée.
Elle n'est pas tronquée la préparation. Elle a été ce qu'elle a été. Mais apparemment, c'était pas dans le sens d'aller au combat.
Il aurait pas fallu garder les mecs à Marcoussi plutôt que les renvoyer dans leur famille le week-end dernier. Oh, t'as quand même très peu de temps de vécu collectif. Alors c'est pas facile de garder des lions en cage comme ça.
Oui, mais avant c'était deux week-ends de repos, maintenant c'est le seul dans le tournoi. Ouais. Avant il y avait deux matchs, semaine de repos, un match, semaine de repos, deux matchs. Et là c'est trois matchs, semaine de repos, deux matchs. Donc c'est.
Mais quand on
va discuter avec Julien, peut-être que dès le début contre l'Irlande, ils sont repartis chez eux plusieurs jours et Julien, il y avait une stat des jours de
ça me sidère.
De repos. Allez, vas-y.
Parce que Fabien Galthié se plaint.
Mais tu as raison. Mais il faut arrêter. En novembre, rappelons-nous
Fabien Galthié se plaint de pas avoir les joueurs suffisamment avec lui.
Ouais.
Alors, mais et encore une fois, il a raison sur certains aspects. Il a moins de temps que certaines nations pour préparer les matchs et ça, il a tout à fait raison. Il a eu pour le tournoi Destination 48 jours de travail entre le premier rassemblement et le match de l'Angleterre. Il y a 48 jours où il a les joueurs à disposition. Il a programmé 17 jours et demi de repos. Donc, il s'est privé de 15 jours d'entraînement. Alors, peut-être pas tous des entraînements à haute intensité. Peut-être que les joueurs ont besoin de repos. Mais du coup, tu fais signer des conventions pour avoir les joueurs à disposition et tu les laisses en vacances. Non, mais après, il faut être cohérent dans les propos de Fabien Galthié. C'est toujours là où Denis, il fait de la communication. Oui, mais alors, sois cohérent, Fabien, dans ta communication. Tu veux les joueurs, tu les as. Eh bien, garde-les et fais des entraînements en marchant s'il faut. Mmh. Et offre-leur du repos s'ils ont gagné un match avec un week-end bonus en disant bah, « c'est bien, je vous offre un week-end ». Mais garde les joueurs avec toi, fais-les bosser. Parce que c'est bien d'être talentueux, mais le talent, il faut le travailler aussi. Tu peux pas te contenter de faire le strict minimum. Et moi, je trouve ça fou. 17 jours de congé sur les 48 jours où ils ont été ensemble. C'est incroyable.
Même Denis, on n'a pas autant. Alors, certains joueurs, après match, reconnaissaient que durant la semaine de préparation, le staff avait également moins mis l'accent sur le jeu aérien, la discipline, qui avait été nos points forts lors des premiers matchs, qui avait été nos points faibles lors de la tournée de novembre. Est-ce qu'on n'a pas, là aussi, oublié un peu l'essentiel? Est-ce qu'il ne faut pas remettre à chaque fois ces priorités dans la tête des joueurs et les faire travailler, Denis?
Ben c'est curieux qu'ils disent ça. Enfin, je sais pas moi. Il faut insister.
C'est pas des enfants quand même.
Et puis ce domaine-là, on sait très bien ce domaine des ballons hauts. On sait très bien qu'aujourd'hui c'est fondamental dans le rugby moderne. On l'a vu sur ce match-là où on a été bouffé par deux ailiers qui sont pas très grands. Enfin, un qui est pas très grand mais qui a survolé les airs. Oui, moi ça me surprend que ça m'échappe un peu de savoir qu'ils sont négligents par rapport à ça pendant la semaine
précédente. Le staff les a pas mis sous pression à ce moment-là.
Ah oui.
Puis les vestiaires étaient trop petits, donc.
C'est
sûr qu'après le match, ils sont pas privés de. On a vu sur les réseaux sociaux les Écossais de souligner ça. Hein,
c'est vrai, j'ai pas vu ça.
Ouais. J'ai vu quand même passer quelques messages.
Wilfried, quel sélectionneur qui va en Écosse, c'est plein une fois que le vestiaire était trop petit à Murrayfield, à part Fabien Galthié. C'est le seul. Le vestiaire est trop petit, on est obligé de se changer dans le couloir. Ah, mais quelle pleureuse parfois, il a commencé à pleurer jeudi, quoi.
Vous parlez avec Fabien?
Non, mais Denis, c'est
non,
le seul.
On ne sait pas ce que c'est venu faire là. On sait pas ce que. C'est parce que ça ne va pas motiver les joueurs, ça n'est pas l'ancienne. Gars, vous avez vu comment ils nous traitent, le vestiaire est trop petit. Non, c'est pas ça. Donc, c'est un écran de fumée,
surtout
en fait.
Surtout que t'énerves en plus les Écossais en disant
ça. Exactement.
Oui, non, puis au-delà d'énerver, on s'en fout en plus. On s'en fout.
Mais ça ne sert à rien.
Ça a fait quand même une grande partie de l'avant-match.
Et tout, mais. Non, évidemment, on doit faire le ménage devant notre porte. Les sites internet et tout. Oh, le vestiaire, il est trop petit. Regardez, ça fait du clic et tout. Mais on s'en fout, en fait. On parle de jeu.
Il fait de la com.
Il lance la canne à pêche et on est là, en fait.
Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a aussi notre part de responsabilité, peut-être, en reprenant ça, en leur mettant trop de confiance dans la tête. Bref, voilà. C'est tout l'ensemble du rugby français qui est à la rue sur ce coup-là.
C'est quand même pas notre faute s'ils sont pas travaillés les joueurs.
Regarde, quand on les attaque, ils se défendent.
Mais c'est des enfants. Ah, ils nous ont pas dit qu'il fallait travailler le jeu aérien, donc on a moins 1000 focus. Ah, mais c'est incroyable. Ah, ils nous ont pas dit qu'il fallait travailler la défense.
Ils vous font de tout. Fabien, ils vous font de tout.
Enfin, ils nous font de tout.
La tête.
Ils nous font de tout. Il s'est pris. Moi, c'est pas moi qui ai pris 50 points ce week-end. Moi, ça me va. Moi, j'ai bien dormi. Moi, j'ai pas regardé 5 fois. Deux fois le match, j'ai pas regardé avec Fabien me faire des notes. Ah, qu'est-ce que j'ai mal préparé, hein. C'est lui qui se met dans la mouise tout seul.
Bon. Moi, j'ai croisé Patrick Arletas après le match. Il m'a dit la valise est pleine.
La valise est pleine. Il était pas content.
Il était vénère. Il m'a dit bonjour Denis, mais tu vois, ouais, il est parti. C'est... Mais là, on repart les valises pleines.
L'avantage à Murrayfield, c'est que c'est tellement petit, même la salle de presse. On est juste à côté des vestiaires, donc on voit ce qui se passe juste à côté, et c'est intéressant de voir ce qui se passait justement après cette défaite catastrophique. Autre élément qui a marqué les esprits durant cette rencontre, c'est donc le manque de réaction, le manque de rébellion des Bleus lorsqu'ils ont commencé à prendre la marée. Personne n'a semblé vouloir prendre le lead et appeler à la révolte. Dupont est un formidable joueur, personne ne va contester ça. Mais est-ce qu'il est vraiment le chef de meute dont on aurait eu besoin ce samedi, Wilfried ?
Dupont ?
Ouais.
Ouais, c'est vrai qu'à Toulouse, ça lui réussit pas trop. Hein. Il ramène pas trop de titres avec le Stade Toulousain. Il est pas assez leader, j'ai trouvé. Je me rappelais de la finale 2024 contre le Leinster. Il a pas été très bon. Hein. Il a pas été très bon.
Non, mais c'est un leader. Mais est-ce que.
Mais là, il a été éteint. Mais
non, mais là, il fait pas bon.
En plus, je sais pas si vous avez vu, il râlait tout le match. Il a râlé contre l'arbitre, contre. Il n'était pas bien. C'est pas le Dupont qu'on connaît, qui est attentif, lucide.
Enfin, on peut pas. Je pense que c'est un jour sans pour lui.
Oui, complètement.
Il va pas redevenir joueur lambda.
Non, mais sans dire ça. Mais est-ce que on a assez d'aboyeurs sur le terrain? Est-ce qu'on a assez de... Moi, il y a personne qui a rassemblé l'équipe pour se mettre en rond.
Les leaders ont fait défaut. Les leaders ont fait défaut.
C'est ça que je veux dire.
Effectivement.
Mais ils ont sombré, les leaders ont sombré comme tout le monde.
Mais que ce soit un Julien Marchand, un Charles Olivon, voilà. Thomas Ramos. Notamment. Oui, c'est clair que, mais ils le savent, hein, j'imagine, hein, que quand on leur dit il n'y a pas eu de rébellion, les leaders sont à pointer du doigt, hein, sur leur leadership, ouais, voilà, pour ramener cette équipe. Donc, mais Dupont, je sais pas. Bah, Dupont, il hurle jamais, hein, de toute façon. Hein.
Oui, c'est ça.
Non, mais Dupont,
c'est un leader par l'exemple. Dupont,
voilà,
c'est
exactement. Je vais te dire, c'est un leader par le jeu. Et quand il est au sommet, c'est le patron. Il organise tout.
Il arrive à être assez influent normalement sur l'arbitre, sur ses coéquipiers. Bon, il a assez de Thomas Ramos pour aboyer, donc peut-être qu'il se dit c'est bon, j'ai pas besoin d'aboyer. Mais non, il y a un jour sans des leaders aussi également.
D'accord. Ok. Cette équipe manque-t-elle de caractère pour vous, Julien ? T'as peut-être ton mot à dire là-dessus. C'est pas la première fois qu'elle s'incline alors qu'on la donne favorite. Elle semble avoir du mal parfois à se sublimer dans les moments compliqués, à se remettre en question et à repartir à l'assaut. Hein.
Non, mais je pense que très clairement aujourd'hui, il y a un problème mental. Alors, c'est peut-être dur à dire, mais les matchs qui comptent depuis que Fabien Galthié est là, on les a quand même pas souvent gagnés, les matchs qui comptent. Il y a ce premier match en Écosse en 2020 pour être justement sur la route du Grand Chelem qu'on perd. Il y a évidemment le quart de finale de la Coupe du Monde. Wilfried a fait un papier. Il y a tous les matchs qui comptent, on les a quasiment souvent perdus. Alors, t'as raison. Est-ce que ça manque de caractère? Est-ce que ça manque de leader? Est-ce que c'est un manque de préparation du staff? Moi, ce qui me gêne là depuis aujourd'hui, donc ça fait 6 ans que Fabien Galthié est là, c'est qu'on n'a pas une identité de jeu claire sur chaque rencontre. Wilfried disait, on sait comment les Box ils jouent, on sait comment les Blacks ils jouent, on sait comment les Écossais jouent.
On sait pas comment.
Nous, on sait pas vraiment comment on joue. On s'adapte un peu toujours à l'adversaire.
Ils ont changé en fait. Hein.
Toi, t'as lu l'édito de Pierre Berbizier, toi?
Non, j'ai pas lu. Non, mais je trouve. Mais en plus,
t'es passé dans Stephen Brunch hier.
Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je
plaisantais. C'est le bouton.
Je suis d'accord que parfois.
Non, mais il parle de l'identité de jeu.
Oui, mais je trouve qu'il nous manque une identité. On a eu cette attaque, les jeux en tank, les attaques à 4, la dépossession. Depuis que Fabien Galthié est là, on a eu combien d'idées de jeu depuis 6 ans quasiment? On a eu la dépossession, le jeu en tank, le jeu en 9, là, les 3. 10 depuis le début du tournoi, ça change tout le temps. Alors Fabien Galthié s'adapte aux règles, s'adapte à ses joueurs, mais au bout d'un moment
tu peux évoluer aussi,
mais c'est normal. Mais je pense que les joueurs, pour les rassurer dans les moments où ça doute, tu devrais pouvoir aussi te recentrer sur des choses où tu sais que ça marche. Le jeu en une passe, il a longtemps fonctionné. Quand Thomas Ramos dit sous les poteaux, on s'est pas gueulé dessus, on s'est dit qu'il fallait revenir aux fondamentaux. Mais je sais pas s'ils savent exactement ce que c'est leurs fondamentaux de 2026. Ils savent peut-être ceux de 2022, mais de 2026, ils les connaissent peut-être pas vraiment encore.
Moi, j'ai une inquiétude sur le. Tu parlais de mental, donc on a fait cette liste de matchs loupés par le 15 de France qui les a soit
soit privé de la première place, soit du Grand Chelem. Donc c'est 7 éditions du tournoi pour Fabien Galthié. Donc il y a un seul Grand Chelem. Donc ça semble peu avec cette génération, comme on dit, et les moyens qu'il a. Mais l'Écosse 2020, carton rouge à Awas, toutes les conneries, alors qu'ils avaient 3 victoires. En Angleterre en 2021, on perd sur un essai dit Todje, ballon porté. Ils étaient à la ramasse, les Anglais. En Angleterre l'année dernière, c'est pas le même type de match parce qu'on leur roule dessus. On doit mener. Tu te souviens, Denis, on avait fait à Twickenham l'année dernière des attaques de fou, mais on le perd à la fin sur 2-3 erreurs. Et l'Écosse encore cette année, quand on compare ça, on met en miroir, excusez-moi, mais le mental d'acier des box, peut-être qu'on pourra les battre. Mais dans les, et vous, bon, sans parler de la Coupe du Monde, du quart de finale, voilà, c'est, on attendait confirmation en Écosse. On attendait de passer la marche, en fait, d'aller gagner en Écosse, de pouvoir jouer le Grand Chelem. Et là, on avançait. Là, on était, la Coupe du Monde 2023, c'était vraiment derrière. Et à un an et demi de la prochaine, c'était parfait. D'ailleurs, tout le monde rêvait de ça, quoi. Et voilà, de, encore une fois, avoir un petit doute, eh ben, on va le garder, en fait. On va le garder longtemps.
Eh oui. On va le garder longtemps, on va le garder au moins jusqu'à la Coupe du Monde, parce qu'on ne saura jamais de quoi est capable cette équipe de France.
À moins qu'on fasse le Grand Chelem l'année prochaine, Christophe, mais
on va recevoir les Springboks en novembre quand même. Bon,
ce match est un arrêt brutal par rapport à une construction colombo-libelle.
Est-ce que ça remet tout en question?
Et puis on a perdu contre les Boks en novembre.
Est-ce que ça remet tout en question?
Ce qui remet en question, c'est de se dire qu'on est capable de faire des matchs comme ça. Maintenant,
et c'est il y a un petit doute.
Le doute, c'est que on se dit, il faudrait pas que ce soit qu'on en refasse des matchs comme ça. Il faudrait être constant. Il faut les blagues à la grande
constance.
La grande équipe des blagues ne passait jamais à travers un match. Les Sudaf non plus. Donc c'est en ça que je suis un peu, je mets un doute. Je suis un peu inquiet parce que on sait très bien que samedi ça va repartir, qu'il va y avoir un engouement.
On bat l'Angleterre, est-ce que tout va être
on va gagner le tournoi, c'est parti. Donc c'est reparti. Mais après, il faut pas qu'on refasse.
Ah oui, parce qu'on a oublié quand même ce qui s'est passé en novembre rapidement avec les trois matchs.
Oui, on a oublié
souvent les moments difficiles quand derrière il y a de belles victoires. Et puis
non, mais on peut pas, il y aura une grosse tâche sur ce tournoi, hein.
On peut pas
l'oublier. Ouais. Tu vois, alors on s'est pris la tête un peu avec Wilfried, ça restera un tournoi gagné quoi qu'il en soit. Mais je trouve
un tournoi réussi, non. Un tournoi réussi, non.
Pour moi, non. Pour moi, c'est un tournoi.
Tu peux le gagner sans réussir. Voilà, tu as raison.
Moi, j'avais dit, tu peux pas faire le Grand Chelem en fonction de comment tu perds en Écosse. Ou perdre en Écosse 25-22, où t'es dans le match tout le temps. Là, tu as été humilié en Écosse. Donc pour moi, c'est une grosse tâche sur ce tournoi 2026.
C'est juste que les mecs, enfin je parle des joueurs, voient le palmarès et on compare les deux derniers tournois gagnés, c'était 2006-2007. Et tout le monde dit, ça fait 19 ans qu'on n'a pas gagné. Mais ces deux tournois, il n'y avait pas de grand chelem en 2006-2007. Et pourtant, on en parle, on dit on avait gagné le tournoi deux fois de suite.
Mais regarde,
si on commence le tournoi et on dit, il n'y a que le grand chelem qui est gagnant, il faut le dire dès le départ.
On est là à se dire qu'on a la plus grande, la plus belle génération de l'histoire du rugby français.
Je suis d'accord aussi.
Par rapport à ça, Wilfried.
Mais sur un palmarès, il y sera. Les Irlandais ont gagné le tournoi 2024, ils ont fait le Grand Chelem en 2023. En 2024, quand nous, on était deuxième, on n'a pas dit « Ouais, mais ça compte pas, les Irlandais, ils ont gagné, mais ça compte pas. » Ils avaient gagné, ils avaient soulevé la coupe. Donc je trouve qu'on se flagelle un peu, nous, des fois. Alors, bien sûr, avec, comme vous dites, cette génération, ça, bien sûr, et les 50 points, ça c'est autre chose, ça c'est une tâche plus importante. Mais soulever un trophée, ça reste une ligne sur le palmarès.
Cyprien.
Mais quand on va résumer ce tournoi, on va dire ils ont gagné, mais ils ont gagné le tournoi, mais ils en ont pris 50.
Non, il restera un doute.
Ils ont gagné, mais ils ont gagné.
Mais il y a une grosse tâche.
Mais ils ont gagné.
Rappelons quand même la période 2002-2010. Messieurs, Cyprien, notre producteur, a dit la période 2002-2010, c'est 3 grands chelems et 5 tournois gagnés quand même pour la génération qui était là.
Champion du monde en 2007. Ah non.
Très belle.
Non, mais en 2003 non plus.
Non, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est la meilleure génération, celle d'aujourd'hui.
On peut peut-être revoir là aussi.
Il y a qu'un titre de champion du monde qui viendra valider ça.
Qui viendra balayer ça. Alors, justement, ce titre de champion du monde, tout le monde était là aussi il y a quelques temps lors du tirage au sort. On est déjà en demi-finale.
On prend l'Écosse en 8e. Attendez, on va peut-être prendre l'Irlande en 8e.
Mais où tu peux prendre l'Irlande?
Si les Écossais sont si forts. Donc.
Oui, t'as raison. C'est plutôt le mais bon, c'est pas cousu de fil blanc non plus jusqu'à la demi-finale du coup. Là aussi,
si tu prononces la phrase. phrase, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire éliminer en huitième? Non.
Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Non, mais non, d'accord, ok. Non. Ça, c'est la méthode Coué, ça, Wilfried. Non.
Ah bon,
non, je ne veux pas y croire, ça n'arrivera pas. Très bien. Avant de penser justement à cette Coupe du Monde, il y reste donc un tournoi à terminer, avant même le dernier match. On le disait, tournoi déjà raté, encore rattrapable, réussi, pas réussi. J'ai bien compris que Wilfried et Julien n'étaient pas du même avis. Toi, Denis, qu'est-ce que tu en dis? Une victoire rattraperait-elle le coup? Ça ferait un tournoi réussi de le gagner?
Elle me trompera pas, en tout cas. Mais,
elle te trompera.
Ouais, j'ai pas dit que ce serait un tournoi réussi de le gagner. Mais ça c'est
sera
important.
Déjà de le gagner deux fois de suite, ça serait assez beau et ça récompensera, oui, le travail de Fabien et de son staff. Mais il y aura une tâche, forcément. Mmh. Une grosse tâche.
Il aura plus de saveur le tournoi de l'année dernière où tu seras déplacé en Irlande et en Angleterre. Que ce tournoi où tu avais une année favorable pour le gagner.
Bah oui, c'est les années paires.
Il faut battre l'Angleterre avant.
Oui, il faut battre l'Angleterre.
Donc, il va donc falloir battre cette équipe d'Angleterre. Ce sera samedi prochain, rencontre qui a perdu un peu de sa superbe après la défaite de samedi. Alors, une victoire dans le tournoi à Saint-Grand Chelem aurait-elle quand même de la saveur? La réponse de Thomas Ramos.
Tu me dis ça comme si, avec tes yeux, comme si encore un tournoi à gagner, comme si c'était rien. Non, comme tu dis, il y a encore un tournoi à gagner. On avait la possibilité d'avoir un tournoi plus facile pour aller chercher un Grand Chelem. J'ai fait une interview dans la semaine où je disais c'est impossible de parler de Grand Chelem tant qu'on n'est pas venu jouer en Écosse. Bon, ben la preuve en est ce soir. Donc il y a encore un tournoi à gagner, comme je le dis à chaque fois, peu importe, c'est le même trophée. Alors oui, c'est moins prestigieux de se dire qu'on fait pas le Grand Chelem, mais en revanche, on a envie de remporter ce deuxième tournoi d'affilée. Ça fait très longtemps que la France n'a pas gagné deux tournois d'affilée. Un peu abattu au vu du score et de notre match ce soir, mais je crois qu'on va très certainement très vite basculer sur le match de l'Angleterre pour le préparer au mieux et surtout pour aller chercher le tournoi au bout.
Voilà, des Anglais qui sont encore plus mal en point que nos Bleus et qui, samedi soir, ont perdu pour la première fois de leur histoire contre l'Italie, l'humiliation suprême pour le 15 de la Rose, qui en est à 3 défaites dans ce tournoi. Là aussi, complètement incompréhensible et bien loin des pronostics d'avant-tournoi. Tout le monde voyait l'Angleterre grandissime favorite au même titre que l'équipe de France après vraiment une série de victoires incroyables, après aussi des prestations des clubs anglais qui étaient vraiment de retour dans le
c'est pas les Anglais qui sont mauvais, c'est les Italiens qui sont très forts.
Non, bah, les Anglais ils sont mauvais quand même.
Les Anglais sont tristes.
Denis, attends, 3 défaites.
Non, mais c'est pas une grosse équipe. Une grande
bravo à l'Italie.
Bravo à l'Italie, mais heureusement qu'ils ont gagné les Italiens. J'aurais eu de la peine s'ils avaient perdu.
Bien sûr, on est tous contents, on était tous ravis.
Non, mais surtout par rapport au match, parce que quand je vois l'entraîneur qui est content, qui nous explique qu'il y a trop d'indiscipline, mais qu'à la 60e minute il maîtrise rien du tout. C'est un jeu qui est absolument dégueulasse.
Steve Hendrick, tu veux dire?
Oui, l'entraîneur anglais. Je trouve ça mais scandaleux, mais franchement qu'ils se remettent en question, parce que là ils vont dans le mur et sincèrement ils m'ont tellement fait de peine que je vois pas comment on va pas leur remettre 30-40 points.
La bête blessée ne peut pas se rebiffer et mordre une dernière fois.
Mais
elle peut pas,
la France elle a d'autres qualités, d'autres choses à proposer que ces Anglais qui sont je sais pas si vous avez vu le match.
Ils ont pas d'idée, dans le jeu.
Sans idée, sans rien, quoi. Enfin,
c'est qu'avant le tournoi, on était tous excités, Denis, avant le tournoi d'Angleterre. Et que là, finalement, on va tous regarder l'Irlande-Écosse, en fait.
Tu as raison, Julien.
Le match le plus sexy, c'est l'Irlande-Écosse de l'après-midi.
Absolument, c'est le plus sexy.
On partira au Stade de France une fois l'Irlande-Écosse terminée, parce qu'on n'ira pas avant. Les Bleus, qui même en cas de succès ne seraient pas donc assurés de remporter le tournoi, mais ils auront l'avantage de savoir, justement, avant d'entamer la partie, ce qu'il faut faire pour gagner la compétition. Ça, on en parlait l'autre jour après match. C'est bien dommage quand même qu'on n'ait pas les matchs en même temps. Mais bon, ça, c'est impératif.
Si l'Irlande gagne avec le point de bonus, il faudra gagner impérativement contre l'Angleterre. Non, sans le point de bonus, je crois.
Si l'Irlande a gagné, ils sont à 2 points de nous.
Oui, donc il faudra gagner contre l'Angleterre.
Si l'Écosse.
Ça s'en saura.
Si l'Écosse gagne.
Si l'Écosse gagne avec le bonus offensif, il faut qu'on fasse la même.
On a la même
chose. Oui, on a plus 69, ils ont plus 21. On a 40 points, oui, voilà. On a 40 points à la louche d'avance à la différence de points. Donc,
mais il faut remarquer que
je veux bien que l'Écosse gagne en Irlande, mais qu'ils leur mettent 80-0.
Moi, je suis obligé de
pris des bonus. On a toujours pris des bonus depuis le début du tournoi. Je vois pas comment on pourrait pas mettre 4 essais aux Anglais.
C'est vrai. Ouais, parce qu'on en met. Ouais, on en met.
Christophe veut que je reste, mais je suis désolé. Mais c'est une grande émission qui m'attend.
Ah, ben vas-y.
Nos auditeurs le savent.
Heureusement qu'on explique à Denis qui s'exclipse sans rien dire. discrètement, tu vois, comme ça.
Mais non, mais c'est ça les stars du rock'n'roll.
Mais faut qu'ils disent, quoi.
Regardez, reste, mais non,
faut m'emmerder. J'ai une grande émission.
Vous savez quoi, m'emmerder, je vais voir le chef maintenant.
Allez-y. Ça y est, les retours de Dubaï.
Ils l'ont lâché. Vincent Boscato.
Et tu lui dis qu'il a eu le nez creux avant le match, quand même. Franchement, il a fait un pronostic incroyable.
La grande émission qui connaissait pas Broboiri en début de saison, quoi.
Putain, je vais dire que tu balances. Ok, c'est fait.
Ben non, mais ça existe, hein. Ça existe en podcast, hein. On peut l'écouter.
On peut l'écouter, exactement. Merci, Denis. À la semaine prochaine. Donc, un petit mot sur le groupe de 42, Julien, qui a donc été communiqué dimanche après-midi par Fabien Galthié. Il y a assez peu de changements, finalement. C'est peut-être dans les 23 qu'il y aura plus de changements jeudi, hein.
Alors, les 23 qui étaient en Écosse sont reconduits, excepté Nicolas Deporter, dont on l'a dit, blessé à l'épaule. Donc, c'est à la marge qu'il y a. Ouais. Ouais, c'est à la marge qu'il y a des retours. On pense au retour des Palois, Hugo Radou, notamment Axel Despérez, Sacha Zeguer. On pense aussi au retour de Maxime Lucu, qui va remplacer Nolan Le Garec. Ouais. Voilà, c'est vraiment des remplacements à la marge. Mais peut-être qu'Oradou va avoir une chance. Bah, on n'en a pas parlé, mais voilà, en fonction de la sanction que va couper Jégou, Olivon pourrait redescendre en troisième ligne et il faudrait donc un deuxième ligne qui pourrait être Hugo Radou, remis de sa blessure au mollet. Mais voilà, on va faire confiance. Je vois pas Fabien Galthié tout chambouler, tout renverser la table avant ce match contre les Anglais. Bah, je pense que les joueurs ont aussi envie de répondre. Ouais, y a une réaction attendue forcément des joueurs. Et puis Fabien Galthié a fait quasiment confiance à un groupe très très resserré depuis le début du tournoi. Ça serait dur de les sanctionner juste avant le dernier match et la possibilité de lever le
ouais, mais enfin,
le titre,
si tu sanctionnes pas, si tu sanctionnes jamais après, notamment après une telle déroute, à ce moment-là, tu mets la même équipe tout le temps. Tu ne tiens pas compte des déficiences des uns et des autres. Enfin bref, c'est un avis personnel. Un mot donc là aussi, inquiétude, grosse inquiétude pour Oscar Jégou, qui a donc été cité, qui est passé ce matin en commission de discipline.
Non, c'est demain.
C'est demain, pardon. Demain.
C'est demain. Quand vous écoutez ce podcast, c'est le mardi après l'Écosse et avant l'Angleterre.
Mardi 10 mars.
Et qui risque très lourd, Wilfried. Hein. Il risque très très lourd.
Bah, c'est toujours contact de la main avec le visage adverse. Hein. Beaucoup de monde a vu les images. Donc, on disait entre 12 à 208 semaines. On va pas aller jusque-là, mais bon.
Atoub a pris 52 semaines.
Oui, mais c'était un autre temps. Mais sans
images.
12 semaines.
Oui, sans images pour David Atoub.
Terrible, à l'époque, terrible. C'était 12 semaines pour être Sebet. Voilà, je pense que du côté du Stade Rochelet, on doit être très très content. Et on doit croiser les doigts. Bon, voilà, je sais, il faudra voir l'axe de défense des Français. Hein. Moi, j'ai pas vu l'image où on. Est-ce qu'il. Enfin, bon, de toute façon, il est en tort. Hein. Vous savez, dès qu'il y a un contact avec main visage, hein, c'est très très délicat du côté du commissaire. La citation.
Là où je suis très inquiet, c'est que Ed Sebet, c'était sur une bagarre, et donc la main est arrivée dans les yeux. Là, j'ai quand même l'impression, quand tu revois les images de Jégou, c'est
qui
pas
trifouillé, qui va trifouiller dans les.
Je suis très inquiet de ce que pourrait prendre Oscar Jégou. Honnêtement, hein, je pense que ça peut. Pour moi, la saison, elle est presque terminée. Là, je vois pas comment il peut échapper à moins de 3 mois.
Ah ouais.
Minimum.
D'accord. Tu
mais bon, peut-être que je vais me tromper, que demain il va rien avoir et que.
Non, mais j'aime bien en plus bien enfoncer le clou quand c'est les Français.
Mais là, j'ai peur que ça soit lourd.
Ok, bah on surveille ça avec un peu d'inquiétude, il faut bien le dire. Merci messieurs et haut les cœurs. Hein. Si le grand chelem s'est envolé, il ne faut pas négliger la possibilité quand même de bouter l'anglais.
28e tournoi, mon cher Christophe. 28e tournoi possible pour l'équipe de France. 28e. Il n'y aura pas de 11e grand chelem, ce serait le 28e tournoi de palmarès de l'équipe de France.
Bah, ce serait déjà pas mal. Et puis il faut respecter les traditions, hein. Les Anglais, faut les battre, c'est comme ça, il n'y a pas à tortiller. Bonne semaine les garçons, et à lundi prochain.
Salut tout le monde.
Ciao ciao.